Bonjour, je suis Sylvain Loudio.
Quel a été votre parcours d'étudiant et votre parcours professionnel?
Alors j'ai fait des classes prépa en France pour intégrer après une école d'ingénieur à Grenoble. J'ai fait ma dernière année d'études en Angleterre, à Imperial College. Et voilà, donc ça m'a permis de faire un stage à l'ESOC, ici où je travaille. Qui m'a permis après d'intégrer une équipe qui préparait des opérations de vol. Voilà, donc ça, je suis resté ici 4 ans. Je n'avais rien fait d'autre. Je n'avais jamais été ailleurs pendant ma carrière professionnelle. Donc j'ai décidé de partir. Je suis parti dans le sud de la France pendant 2 ans. Et après, je suis allé aux Pays-Bas, dans l'autre centre de l'ESA, où là, on sait plus de la conception et de la fabrique de satellites. Pour finalement revenir ici à l'ESOC sur le projet Rosetta.
Avez-vous une rencontre particulière durant votre carrière qui vous a influencé pour faire tout simplement une carrière dans le domaine du spatial?
Alors, j'ai eu la chance de faire un stage de deuxième année d'école d'ingénieur ici à l'ESOC, qui m'a permis un peu de découvrir ce monde ici et les possibilités qu'il y avait après la fin des études pour commencer une carrière professionnelle dans le spatial. Voilà, c'est ça qui a un peu tout déclenché pour moi.
Pouvez-vous nous présenter le projet Rosetta? Quels sont les principaux instruments de la sonde et de l'atterrisseur Philae?
Alors, le projet a été lancé en 2004. Donc ça fait pas mal d'années maintenant. Il a fallu 10 ans pour arriver à la comète, parce que c'est toute une série d'assistances gravitationnelles, une fois autour de Mars, trois fois autour de la Terre, pour arriver à se mettre sur la même orbite que la comète et au même point dans l'espace. Dans l'espace, c'est assez facile, entre guillemets, de survoler un objet, mais d'aller à son encontre et de rester avec cet objet pendant de longues années, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc 10 ans pour arriver à destination, sachant qu'à une phase de 2 ans et demi, on était tellement loin du Soleil qu'on a dû éteindre la sonde pendant 2 ans et demi. On était sans contact avec la sonde pendant 2 ans et demi, donc jusqu'à janvier 2014, où la sonde s'est réveillée et à ce moment-là, on a préparé toute la phase cométaire, donc avec la phase d'approche de la comète, jusqu'à sa fin de vie en fin 2016. En chemin, on a survolé deux astéroïdes. Donc ça, c'est la première fois qu'on faisait ça en Europe. Donc il y a eu pas mal d'activités pendant ces 10 ans, pas mal déjà de sciences avec les instruments, donc à la fois avec les survols de Mars et de la Terre, mais aussi ces survols d'astéroïdes. Alors, il y a 13 instruments à bord de Rosetta. Des instruments qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Philae, par exemple, en est un. Philae lui-même a 10 instruments à son bord. D'autres instruments sont une suite de multiples instruments. Donc il y a toute une quantité complexe d'instruments qui sont là pour observer la comète sous toutes ses formes, essayer de comprendre comment elle est, sa composition, sa structure interne, mais aussi étudier des gaz, des poussières qui sont autour d'elle. Donc des instruments qui font de l'observation, des instruments qui prennent des mesures, qui récoltent des grains de poussière pour les analyser. Et le summum, c'est bien sûr Philae qui lui a été sniffé sur place et analysé sur place, sur la surface de la comète, toutes ces mesures.
Lorsque vous dites des poussières, l'analyse de poussière cométaire, c'est de l'ordre de quelle taille à peu près? Pour avoir un ordre d'idée en fait.
Alors il y a plusieurs instruments, donc du nanomètre jusqu'au micromètre, donc vraiment toute la gamme de particules aussi. Après, avec aussi sur les images, hein, donc, par exemple les images d'Osiris, il y a moyen de faire de l'analyse de particules. Donc c'est vraiment toute la gamme.
Quelles ont été les grandes étapes de ce projet?
Alors, bien sûr, la phase de lancement qui est primordiale. Après les 10 ans de vol qu'on a détaillé déjà avant, la phase d'hibernation, si la sonde ne s'était pas réveillée après les 2 ans et demi toute seule. Il n'y aura jamais eu de mission, toute la phase, on n'aurait jamais connu toute la phase cométaire.
Alors, ce que vous appelez la phase d'hibernation, c'est la période où elle n'a pas été fonctionnelle, où les instruments n'ont pas fonctionné.
Alors, toute la sonde ne fonctionnait pas.
Toute la sonde ne fonctionnait pas, mais il faut rappeler que dans le contexte de l'espace, les températures sont à la fois basses quand on est dos au soleil et élevées face au soleil. Est-ce qu'il y a sur un court moyen terme des impacts possibles au niveau des instruments, ou les instruments sont étudiés pour supporter des températures très
élevées? Alors les instruments et la sonde a été conçus pour supporter des distances allant d'une unité astronomique au soleil jusqu'à 5.
D'accord. Okay.
Donc des phases chaudes jusqu'aux phases froides. Alors la raison pour laquelle on a été hiberné, c'est que en 2011, une fois qu'on était sur la même trajectoire que la comète, on était tellement loin du Soleil que les panneaux solaires, malgré les 64 mètres carrés de panneaux solaires, ne fournissaient plus assez d'énergie pour pouvoir maintenir toute la sonde active. Donc, depuis longtemps, les instruments, on ne peut plus les allumer. Mais même la sonde elle-même, qui par défaut consomme à peu près 600-640 watts, on n'avait pas ces 640 watts pour la maintenir active. Donc ce qui s'est passé, c'est que la sonde a été transformée en un spinner, donc on a fait spinner. Normalement, la sonde était stabilisée sur ces 3 axes. Et alors, très loin du Soleil, une sonde qui spine, c'est très très stable. Donc on a pu éteindre toutes les unités qui permettent à la sonde de naviguer.
Par exemple, vous appelez spinner, c'est...
C'est tourner sur un axe de rotation. Et donc on a pu éteindre les capteurs d'étoiles, les gyroscopes, les roues à réaction. Et en fait, le peu d'énergie qu'on avait, on l'a purement dédié à la thermique. Et à un petit réveil qu'on avait programmé pour déclencher le réveil de la sonde le 20 janvier 2014.
Alors, pourquoi cette comète 67P, quelle particularité possède-t-elle ?
Alors, pourquoi cette comète ? C'est assez simple. En fait, au départ, la sonde Rosetta devait être lancée en 2003. On était avec l'équipe ici, on était à quelques jours du lancement, et Ariane avait eu des soucis avec des lancements précédents et a décidé de ne pas nous lancer parce que c'était trop risqué, il y avait une risque de pas nous mettre sur la bonne trajectoire. Et donc on s'est retrouvé sans lancement et il a fallu retrouver une nouvelle comète. Alors après, la sonde elle a été définie, a été conçue pour une certaine variété de distance au Soleil, donc des conditions thermiques spécifiques, donc on ne peut pas sortir de cette enveloppe-là. Après, on avait besoin de démarrer la mission assez rapidement, donc on ne voulait pas que le délai de lancement soit de plusieurs années. On avait des contraintes système, on avait Philae qui avait été conçu pour se poser sur un type de comète spécifique, donc il fallait que la comète que l'on trouve corresponde, qu'on puisse à nouveau poser Philae sur cette nouvelle comète. Et en fait, donc si on analyse et on prend en compte tous ces paramètres, eh bien on se retrouve avec CG. Voilà.